décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 5, salut Christian.
Salut Nico.
Salut Nolwenn.
Salut Luc.
Pas de Manu cette semaine, pas de Mag non plus. C'est la semaine 5 et au sommaire, qu'est-ce qu'on a ?
Plein d'articles. ZDNet France, du libre pour fêter les 50 ans des premiers humains sur la Lune, par Thierry Noisette.
Donc c'est un article qui fait une liste de logiciels libres qui permettent d'explorer l'espace et ce genre de choses un peu dans la thématique des 50 ans des premiers pas sur la Lune.
ZDNet France, Firefox doit-il rejoindre le navigateur Chrome comme le soutient un cadre de Microsoft ?
Microsoft a récupéré pour son navigateur le même moteur que Chrome et donc il voudrait embarquer tout le monde dans la même galère. Et donc la question est posée.
Lemonde.fr, grand débat en ligne et démocratie, l'analyse et la transparence des données en question, par Claire Legros.
Donc un article qui revient sur le grand débat fortement critiqué, voilà, qui explique à quel point ça fonctionne pas bien, et fait un petit tour d'horizon des moyens disponibles pour la démocratie directe.
Numérama, Apple versus Facebook et Google, pour défendre sa doctrine, Tim Cook a-t-il raison de sortir les armes, par Victoria Castro.
Donc ce sera notre sujet du jour, en partie. Donc on va pas s'étendre dessus, mais en gros, Apple a sorti ses gros muscles, cassé la gueule à tout le monde, et ensuite, ils ont discuté, mais on reviendra en détail dessus.
Internetactu.net, des effets des outils sur nos pratiques. Pourquoi les médecins détestent-ils leur ordinateur ? Par Claire Richard.
Oui, alors c'est une tribune, en fait, qui est parue dans The New Yorker, si je ne me trompe pas, écrite par le journaliste et chirurgien Atul Gawand, qui revient sur justement l'utilisation des outils informatiques dans le cadre médical, donc tout ce qui va être des outils comme ce qu'on connaît Doctolib par exemple, et pourquoi est-ce que ce n'est pas forcément une solution idéale quand on est médecin et qu'on veut s'occuper correctement de ses patients.
Lemonde.fr, l'irrésistible ascension du lecteur vidéo VLC, une révolution française, par Corentin Lamy.
Donc VLC qui est le lecteur de médias qui fait tout et plus, donc qui vient de dépasser les quoi, 2 milliards, c'est ça ? D'utilisateurs, bravo.
Bravo, bravo. Ouzbek Erika, et si le monde numérique devenait vraiment libre ? Par Christelle Bazin.
Donc un sujet très intéressant, je trouve, qui questionne le logiciel libre en disant qu'il est trop centré sur les geeks, qu'il est trop centré sur le fait que le code soit disponible, et qu'au final, il n'arrive pas à sortir de ce milieu-là, à emmener du monde avec lui, à construire une dynamique qui dépasse son périmètre actuel.
De vraies questions très intéressantes dans tous ces articles cette semaine à nouveau.
Oui, c'est une sélection de Manu, donc forcément c'est bien. Quoi, ça sent que je suis un peu hypocrite ? Non, c'est ça ?
Non, mais les absents ont toujours tort.
Et donc
donc voilà, on voulait revenir cette semaine sur Apple, Facebook et Google. Gros clash entre les GAFAM. Donc c'est un sujet d'actualité.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
Ils sont potes normalement.
Ouais, mais là pas vraiment en fait. Facebook a un peu abusé de ses pouvoirs sur une de leurs applications qui s'est mise à espionner un peu trop les gens et qui a été développée.
Ils ont pas abusé parce qu'ils ont proposé ça.
Ils donnaient de l'argent, non ?
Ouais, enfin il y a eu vraiment beaucoup de scandales là-dessus et Apple a pas du tout apprécié en fait les applications Facebook qui faisaient ça. Alors, et donc ils ont tout annulé.
Donc les applications en question, Google a fait la même, hein, donc eux aussi ont été coupés. L'application, c'est en gros Facebook en premier est allé voir des gens. Ils disent si vous avez entre 15 et 35 ans, on vous propose $20 par mois pour vous surveiller tout le temps. Donc, on va installer un logiciel sur votre téléphone et on va récolter toutes vos données, etc. Vraiment une surveillance extrêmement étroite. Et donc, pourquoi Apple réagit là-dessus ?
Bah parce que Apple, eux, se placent comme des grands défendeurs de la vie privée des gens et donc ils n'ont pas apprécié que les données de leurs utilisateurs se retrouvent dans les griffes de Facebook. Et donc, ils ont dit, bah, vous avez violé nos conditions générales d'utilisation, donc on vous radie complètement. Et là, ils ont été plus loin. D'habitude, ils aiment bien supprimer les applications. Et là, ils ont carrément supprimé le certificat de Facebook, c'est-à-dire que Facebook n'avait plus accès du tout à l'Apple Store. Et donc, ne pouvait plus mettre à jour, ne pouvait plus proposer de nouvelles publications.
Il y avait même des fonctions qui ne marchaient plus, c'est-à-dire que les fonctions de messagerie de Facebook ne fonctionnaient plus. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient même plus échanger et les gens s'en retrouvaient du jour au lendemain avec des applis Facebook sur iOS qui ne marchaient plus, enfin en tout cas qui ne permettaient plus de notamment dialoguer, toute une série d'autres choses qui ne fonctionnaient pas.
Mais du coup, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui ont un iPhone ?
Bah, malheureusement, c'est la majorité des Américains,
à peu près la moitié
ont utilisé des iPhones et des Apple en général.
Ça fait beaucoup.
Donc c'est vraiment l'arme de destruction massive qu'ils ont sorti cette fois-ci.
Alors Google a fait le même genre d'appli que Facebook, hein, ils ont sorti ça en même moment, et se sont également fait tacler par Apple. Et donc l'article qui parle de ça est assez intéressant parce qu'il fait un parallèle entre la guerre froide et cette situation-là. Et il compare le fait de tout couper, parce que c'est quand même bien violent de dire « je dégage de tout mon écosystème de téléphone et autres » à l'utilisation de la bombe atomique. en disant voilà, on peut l'utiliser mais pas trop. Donc ça n'a pas duré très longtemps, une journée, après ils ont négocié. Et puis en même temps, si on l'utilise pas et qu'on montre pas qu'on est capable, bah du coup ça fait peur à personne.
Mais du coup, on sait bien que c'est juste un coup de com' pour mieux négocier.
Effectivement. Alors sur cette question de la protection des données par Apple, il y a un ensemble de gens qui disent que Apple. Et oui, alors non, mais il y a un certain nombre de gens qui disent que Apple, c'est finalement le bon choix et c'est ce qu'il y a de plus raisonnable et le plus disponible pour protéger ses données.
Alors, on ne va pas reciter le nombre d'affaires qu'il y a eu avec Apple, des affaires de censure de la part d'Apple, que ce soit...
Ça protège, ce n'est pas une question de données personnelles, la censure. Tu peux...
Oui, c'est le droit d'expression, effectivement.
Non, mais ça va être, par exemple, quand il y a le FBI qui avait attaqué Apple pour pouvoir déverrouiller un smartphone... Mm-hmm. Parce que le FBI n'avait pas déverrouillé un smartphone dans le cadre d'une enquête et avait demandé à Apple de nous le déverrouiller et Apple a dit non.
Après, Apple est quand même le seul qui a un business model qui n'est pas fondé sur la pub et la revente des données, hein, parce qu'ils vendent leur matériel tellement cher qu'ils n'ont pas besoin de faire de revente de données pour être rentable. Et c'est vrai que c'est la différence par rapport aux autres GAFAM. Ils n'ont aucun intérêt à l'espionnage des utilisateurs et à collecter des données par rapport à du Google, Facebook ou autre.
Oui, mais ils n'ont pas les fesses tout à fait propres. D'une part, parce qu'ils ont collaboré et ils étaient obligés de le faire avec la NSA comme tous les autres. Et c'est notamment ensuite aux déclarations de Snowden qu'ils ont pris ce positionnement en disant « mais nous, on ne vous donnera pas les données, etc. »
De mémoire, c'est même le premier qui est tombé dans la NSA.
Non, je crois que c'est Microsoft qui est arrivé en accourant en disant « nous, on est super partant ». Mais en tout cas, bon, voilà, ils ont participé. Puis après ça, il y a d'autres affaires que j'ai vues, notamment sur leur service hébergé, où il y avait un truc qui, moi, me choque terriblement, où les gens qui mettaient de la musique dans le cloud personnel fourni par Apple... Si leur musique était dans le format Apple, tout se passait bien. Si c'était un autre format, la musique était réencodée dans le format de compression plus dégueulasse. Donc ça veut dire que Apple, sciemment et en utilisant des ressources pour ça, dégradait la qualité de la musique des gens et dégageait toutes les métadonnées. Ce qui fait qu'en gros, ils dégradaient la musique qui avait le malheur de ne pas être dans leur format à eux.
C'est sympa pour les artistes qui font eux-mêmes leurs propres chansons et essayent de mettre ça sur leur...
Et puis, c'est sympa pour toi aussi quand tu dis « Nous, on est là pour protéger les données personnelles des gens. Bah, » si tu commences par défoncer leur musique, moi, j'appelle pas ça vraiment du respect. J'avais vu aussi un autre cas, alors qui n'est pas prouvé parce que c'était difficile à faire, d'un scénariste américain qui envoyait son scénario à des gens pour relecture, etc., par des services de messages, de mails d'Apple, et un certain nombre de mails se perdaient. Et dans son scénario, voilà, il y avait des mots crus, il y avait des trucs pas terribles. Il dit, mais ce n'est qu'un témoignage, puisque ce n'est pas prouvable, qu'il a fait des tests avec un pote journaliste à lui, et qu'ils ont mis des mots-clés typiques de la pornographie dans des échanges qui n'étaient pas pornographiques, et qu'effectivement, les messages n'arrivaient plus. Et dès lors que l'affaire est devenue un petit peu publique, ces événements, semble-t-il, ont cessé d'exister.
Alors, on connaît aussi les affaires précédentes de censure d'applications, et donc on voit qu'un grand système comme Apple a beaucoup de pouvoir. Est-ce qu'il n'a pas trop de pouvoir ?
Ça dépend de comment on le considère. En fait, le problème, c'est que les gens vont le voir comme une entreprise privée qui fait ce qu'ils ont envie. Hein. On ne peut pas leur reprocher à une entreprise d'avoir une certaine vision du monde et du coup d'orienter ses choix technologiques ou fonctionnels par rapport à ce qu'ils ont envie. En l'occurrence, là, bah, censurer tout ce qui va être pornographique ou contraire à des chartes d'éthique assez draconiennes. Mais si on les considère comme des États ou comme des choses en tout cas équivalentes d'un État qui commence à toucher des milliards de personnes avec des moyens de communication qui passent obligatoirement par eux, bah on est plus proche d'un service public, enfin en tout cas de quelque chose qui dépasse complètement le cadre d'une entreprise. Et là, ils ont des pouvoirs qui deviennent vraiment dangereux.
Alors, on sait qu'ils ont, du point de vue financement, des milliards et des milliards de dollars, donc c'est l'équivalent du budget de beaucoup d'États sur la planète. On sait aussi que les chefs des GAFAM discutent directement avec les États. Ils sont même reçus à l'Élysée ou à Versailles.
Oui, et on l'avait évoqué il y a quelques semaines, quand la CNIL a mis les 50 millions d'amendes à Google récemment. Le soir même, l'Élysée tweetait en disant « Google a formé 300 000 Français au numérique ». A priori, c'est une coïncidence puisque l'État avait reçu toute une série de grosses boîtes et donc c'est probablement pas lié. Enfin, c'était pas en gros un désaveu de ce que la CNIL avait fait, mais c'est quand même d'une certaine façon un aveu d'échec. C'est-à-dire que quand on est l'État, on est censé avoir l'éducation nationale. Et donc si on se dit c'est Google qui a formé 300 000 personnes, ça veut dire 300 000 personnes qui n'ont pas été formées par l'éducation nationale.
Belle contradiction.
Et on a voilà, l'État qui achète des licences à Microsoft Irlande, avec des systèmes d'enfermement, etc.
Et ils n'ont pas le choix quand ils passent des accords à Microsoft. Microsoft, quand pour l'éducation nationale, Microsoft leur a imposé de faire de l'évasion fiscale avec l'Irlande.
Et rappelons le contrat Open Bar aussi, qui passe plusieurs millions de dollars en Irlande.
C'est celui-là. Ouais. On a effectivement des GAFAM qui sont On les considère comme des entreprises, mais on devrait peut-être plutôt les considérer comme des acteurs de pouvoir et des acteurs de pouvoir internationaux. Donc ils sont différents des États parce qu'ils sont sur plein de pays différents en même temps. C'est très transversal. Ils ont des budgets très importants. Il y a d'autres domaines. Hein. Il y a la fondation Melinda et Bill Gates qui donnent de l'argent pour le développement, alors en le plaçant à droite à gauche. Hein.
Et comme beaucoup d'entreprises, voilà. De fondations, sauf que...
Sauf qu'ils ont tellement d'argent qu'aujourd'hui, dans le domaine du développement, etc., bah, c'est eux qui donnent le pognon. Donc au final, les associations vont faire des politiques qui sont compatibles avec ce que la fondation veut. Donc au final, la politique de développement international devient dirigée et décidée par une fondation, la fondation de Bill Gates.
Ce sont des influenceurs, alors mais avec une dimension tellement énorme que du coup, ce sont...
Bah, pour moi, c'est des acteurs politiques. Le terme d'influenceur, pour moi, c'est un buzzword. Hein. Donc, je préfère plutôt l'éviter. Mais ce sont des acteurs politiques qui ont un vrai poids sur la façon dont les choses se passent. Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, ça fait un bout de temps qu'on dit qu'il veut se présenter au présidentiel des États-Unis.
Et puis, on voit bien qu'il s'en fout quand il est convoqué devant le Sénat ou autre. Il fait son petit jeu à lui et il en a rien à foutre des conséquences. Et il sait que d'un claquement de doigts, il peut de toute façon changer le cours des choses. Et donc, il s'en fout, quoi. Et il en rigole.
Et du coup, à continuer à parler d'eux comme des entreprises et non pas comme des institutions de pouvoir, c'est assez dangereux. Je trouve assez symptomatique qu'en Chine, par exemple, qui est l'empire concurrent et la puissance internationale qui se confronte aux États-Unis, bah, ils ont leur propre réseau. Ils n'ont pas laissé entrer tous ces réseaux-là. Parce que c'est un enjeu de pouvoir énorme. Ce qui veut dire aussi que par rapport à toutes les ambitions et tous les thèmes de régulation du numérique qui sont très à la mode ces temps-ci, ça passera très probablement par les GAFAM. Moi, de la façon dont je vois les choses, c'est qu'il va y avoir des sortes d'intégration des GAFAM comme une extension de système de pouvoir.
De toute façon, on voit aujourd'hui tous les systèmes régulés ancestraux, on va dire, la poste, le courrier papier et autres. Il y a des lois aujourd'hui qui les régulent en France, le téléphone, qui les régulent en France. Et par contre, aujourd'hui, tout le monde passe par des systèmes qui ne sont plus ceux-là. Ça va être WhatsApp, ça va être Facebook, ça va être Google+, mais même si ça va mourir. Mais du coup, ils échappent complètement aux lois. Donc c'est eux qui vont imposer les lois. Et donc on va sûrement... Les politiques des États vont imposer de passer par les GAFAM, qui eux vont avoir les moyens de contrôle ou autre. On aura de moins en moins la possibilité d'utiliser des systèmes tiers ou les vrais systèmes qui fonctionnent ou les... hors GAFAM.
Alors on pourrait citer comme solution alternative le logiciel libre, mais on s'aperçoit aussi que les acteurs des GAFAM s'immiscent dans le monde du libre, disent qu'ils font de l'open source, mettent beaucoup d'argent, et donc va-t-il encore rester de la place pour de la vraie liberté ? Suspense.
Bah, quelque part, le fait de mettre de l'argent quand on a les moyens, c'est aussi un moyen de contrôler la concurrence. Et le fait que dans le monde du libre, souvent, ce sont des gens qui sont bénévoles, qui font ça sur leur temps libre, ça peut aussi les inciter à, voir que Microsoft est intéressé par ce qu'ils sont en train de développer, alors oui, on va accepter un peu l'argent, et comme ça, on va pouvoir prendre plus de temps pour pouvoir le faire, voire peut-être même démissionner de son propre travail à ce moment-là, pour pouvoir continuer et se faire plus ou moins acheter sans le vouloir.
Ok, et ben voilà, maintenant on va aller tous pleurer sur nos sorts, on se retrouve la semaine prochaine, si on a survécu.
Salut.
Salut.
Salut.